Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
On parle, Claude, d'une église sur le parking d'un supermarché.
Et autour de cette église, qu'a visité le journal La Croix, se raconte une bataille sociale et spirituelle, et aussi la Pologne qui résiste désormais à la modernité qu'elle avait pourtant désirée. Nous sommes à Katowice, la modernité s'appelle le Silesia City Center, cinquième plus gros centre commercial du pays, construit tout un symbole sur les ruines d'une ancienne mine de charbon. Et donc sur le parking du centre, en gare de briques rouges, se trouve la paroisse Sainte-Barbara, offerte par le centre commercial à l'église qu'il a acceptée, parce que, nous dit le père Bogdan Kania, l'église doit aller vers les gens et le jeune curé va même évangéliser dans les rayons du centre commercial, symbiose du consumérisme et de la foi. Mais cette symbiose s'achève. La Pologne bannit en effet le travail du dimanche, alors même que le commerce libre exorcisait les rayons vides de la période communiste. Oui, mais en face, il y avait l'église et le syndicat Solidarité. Le dimanche appartient à Dieu. Dieu et à nous, ainsi manifestaient les mineurs dans les années 80, à l'époque pour lutter contre la productivité. Une bataille culturelle se joue donc, tant, nous dit La Croix, le dimanche fait partie de l'identité européenne et la Pologne, ici, est contre-cyclique. Mais l'idée nous reste que l'identité d'un pays et les luttes sociales peuvent s'entremêler. Marianne célèbre ainsi les fonctionnaires contre l'ère du temps libéral et le journal nous invite à aimer Claire, la prof de philo de Cergy, ou bien Philippe, policier municipal à Paimpol, mais dont la maman était si fière à La Réunion quand il a eu son concours. La une du journal montre des agents de l'État, infirmières et CRS unis, levant le drapeau tricolore sur les barricades. Et c'est plus qu'un clin d'œil, parce que c'est au nom de notre histoire que Marianne fait de l'économie. Le fonctionnaire est l'héritier de notre curé. Tiens, à propos de curé, notre père Kania, qui voit parfois venir dans son église à Katowice des braves dames qui poussent un caddie, eh bien, il a déjà trouvé la solution pour faire vivre la paroisse. Quand le centre commercial sera fermé, il restera le multiplex, il calera ses messes sur les horaires des séances.
Il est 8h35, Claude, des villages cambodgiens qui se noient.
Et ils se noient, Nicolas, ces villages, parce qu'on aspire littéralement le sol sous leurs pieds. Le magazine des Échos nous raconte Kosralo, village féerique de pêcheurs de crustacés et de cabanes sur pilotis, près d'une mangrove sublime où la rivière se mêle à la terre. Mais ce paradis est un malheur, parce que le sol des rivières est tapissé de sable, et le sable de rivière, nous dit le supplément des Échos, est l'ingrédient indispensable du capitalisme. On en consomme 40 à 50 milliards de tonnes par an. Ce sable devient le béton des barrages et des villes de Chine ou de Singapour. Et le Cambodge en a fait de ce sable de rivière une industrie d'exportation. Les Échos racontent. Un jour, des mineurs des sables sont arrivés à Kosralo. Un homme est venu. Il a pris les empreintes digitales de tous les villageois. Il a dit que les entreprises d'extraction avaient le droit d'opérer et il ne servait à rien de protester. Et depuis, on creuse et on aspire. Les crustacés disparaissent, les berges s'érodent, les arbres meurent. L'homme fort, évidemment, de la politique locale est dans l'industrie des sables et le pouvoir central autoritaire réprime les opposants et envoie en prison les militants écologistes. Logique implacable que les Échos, journal de l'économie, illustrent avec intelligence et talent.
On parle enfin, Claude, d'une femme d'influence.
Qui se trouve dans le monde, une vieille dame aux cheveux gris, connue sous le nom de Batyeor, ce qui signifie en hébreu la fille du Nil. Cette historienne britannique, elle nous dit le monde, l'égérie des nouveaux croisés, c'est-à-dire tous ceux penseurs ou écrivains qui pensent, qui redoutent la montée de l'islam. Elle dénonçait en 2006, Batyeor, des élites européennes coupables, selon elle, de renoncer à leurs racines judéo-chrétiennes et de livrer leur peuple à la domination islamique. Et ce livre, Eurabia, a été une des sources, notamment du roman Soumission de Michel Houellebecq. Eh bien, l'article du Monde est passionnant parce qu'il sort de la polémique et veut comprendre ce qui anime une femme à partir de son autobiographie. Et l'histoire de Batyeor se mêle à ses idées. Le Monde nous dit: les obsessions pugnaces et les angoisses virulentes qui structurent son parcours s'enracinent dans le déracinement et nous découvrons ainsi le vrai nom de Batyeor, Gisèle Rébi, née au Caire dans une famille juive bourgeoise et cultivée qui raconte les émeutes anti-juives des années 40 et puis l'exil en 1957 quand elle assistait, dit-elle, à l'effacement d'une communauté présente en Égypte depuis près de 3000 ans. Batyeor est devenue l'historienne des juifs et des chrétiens du monde musulman dont le statut de dhimmi garantissait à la fois la liberté et l'infériorité. Puis elle a été prise par nos peurs et elle voit dans ce statut de Dimi l'avenir de l'Europe. Le monde montre donc finement les frontières mouvantes entre l'histoire et l'idéologie, la lucidité amère et le complot, l'influence et la tendresse que l'on éprouve pour celle qui fut une fillette apeurée. On a donc, Nicolas, vous le voyez dans nos journaux, des portraits qui nous intéressent tous pour une seule raison, par leur déséquilibre. C'est tellement plus beau quand c'est compliqué. Ainsi dans l'Obs, c'est le philosophe Alain Finkielkraut qui racontait avec tendresse tant il est contradictoire entre les polémiques que ses passions exacerbent et les scrupules dont il fait preuve quand il anime chez nos amis de France Culture une émission réplique où il invite aussi avec tendresse ses adversaires. C'est dans le point Elon Musk, le milliardaire de la Silicon Valley, conquérant de l'espace, mais qui était jadis un enfant perdu dans ses pensées, qui fabriquait des fusées de charbon de bois et que les autres gamins, qui haïssent la différence, tabassaient jusqu'au sang. C'est dans Le Monde, un étrange garçon si jeune, il s'appelle Italik Buterin. C'est un Canadien d'origine russe, millionnaire à 21 ans, inventeur de l'Ether, c'est une monnaie électronique cryptée, encore plus forte que le Bitcoin. Eh bien, il a eu la révélation adolescent Italik. Il jouait en ligne à un jeu électronique qui s'appelle World of Warcraft. En 2010, la société propriétaire du jeu décidait unilatéralement, sans consulter les fans, de changer le jeu en limitant les super-pouvoirs d'un sorcier. J'ai longuement pleuré, se souvient le jeune homme, avant de m'endormir. Et ce jour-là, j'ai découvert les horreurs provoquées par les systèmes centralisés. Il nous libère ainsi par une monnaie du peuple pour qu'on se console. À quoi ça tient ? Un dernier mot, Nicolas, pour signaler dans le Figaro un article superbe écrit par le directeur du journal, Alexis Brézet, en hommage à un de ses amis, et je l'avoue, un des miens, un camarade d'école de journaliste, qui s'appelait Paul-Henri Dulimbert, qui vient de décéder. C'est un hymne à l'amitié, une ode à cet homme qui a été victime de ce qu'on appelle en vélo la sorcière aux dents vertes. Alexis Brézet cite ce poème qu'aimait Paul-Henri Dulimbert. Écoutez cela. Prends garde à la douceur des choses. Lorsque tu sens battre sans cause ton cœur trop lourd et que se taisent les colombes, parle tout bas si c'est d'amour au bord des tombes. Ça parle de Paul-Henri Dulimbert, ça parle de nous tous en réalité.
Claude Askolovitch.